Lucien Leven, chapitre 40. Pendant que Leven recevait de son père les premières leçons de sens commun, voici ce qui se passait à Nancy. Quand, le surlendemain du brusque départ de Lucien, ce grand événement fut connu de M. de Sanréal, du comte Roller et des autres conspirateurs qui avaient dîné ensemble pour arranger un duel contre lui, ils pensèrent tomber de leur haut. Leur admiration pour M. Dupoirier fut sans borne. Ils ne pouvaient deviner ses moyens de succès. Suivant un premier mouvement toujours généreux et dangereux, ces messieurs oublièrent leur répugnance pour ce bourgeois aux mauvaises manières et allèrent encore lui faire une visite. Et comme le provincial est avide de tout ce qui peut prendre un air officiel et le tirer de la monotonie de sa vie habituelle, ces messieurs montèrent avec gravité au troisième étage du docteur. Ils entrèrent en saluant sans mot dire, et s'étant rangés en haie contre la muraille, M. de Sanréal porta la parole. Parmi beaucoup de lieux communs, la phrase suivante frappa Dupoirier. « Si vous songez à la chambre des députés de Louis-Philippe et qu'il vous convienne de paraître aux élections, « nous vous promettons nos voix et toutes celles dont chacun de nous peut disposer. » Le discours fini, M. Ludwig Roller s'avança d'un air gauche et ensuite se tut par timidité. Sa figure blonde et sèche se couvrit d'un nombre infini de rides nouvelles. Il fit une grimace et enfin dit d'un air piqué « Moi seul, peut-être, je ne dois pas de remerciements à M. Dupoirier. » Il m'a privé du plaisir de punir un insolent, ou du moins de l'essayer. Mais je devais ce sacrifice aux ordres de S. M. Charles X, et, quoique parti lésé dans cette circonstance, je n'en fais pas moins à M. Dupoirier les mêmes offres de service que ces messieurs. Quoique, à vrai dire, je ne sache pas si, à cause du serment à Louis-Philippe, ma conscience me permettra de paraître aux élections. » L'orgueil de Dupoirier et sa manie de parler en public triomphaient. Il faut avouer qu'il parla admirablement. Il se garda bien d'expliquer pourquoi et comment Lucien était parti, et cependant sut attendrir ses auditeurs. Sanréal pleurait tout à fait. Ludwig Roller lui-même serra la main du docteur avec cordialité en quittant son cabinet. La porte fermée, Dupoirier éclata de rire. Il venait de parler pendant 40 minutes. Il avait eu beaucoup de succès. Il se moquait parfaitement des gens qu'il avait écoutés. C'était là, pour ce coquin singulier, les trois éléments du plaisir le plus vif. « Voilà une vingtaine de voix qui me sont acquises. Si toutefois, d'ici aux élections, ces animaux-là ne prennent pas la mouche à propos de quelqu'une de mes démarches, cela peut mériter considération. J'apprends de tous les côtés que M. de Vassigny n'a pas plus de 120 voix assurées, et il y aura 300 électeurs présents. Ce qu'il y a de plus pur dans notre saint parti lui reproche le serment qu'il devra prêter en entrant à la chambre, lui, serviteur particulier d'Henri V. Pour moi, je suis plébéien, c'est un avantage. Je loge au troisième étage, je n'ai pas de voiture. Les amis de M. de Lafayette et de la Révolution de Juillet doivent, à haine égale, me préférer à M. de Vassigny, cousin de l'empereur d'Allemagne, et qui a en poche le brevet de gentilhomme de la chambre, si jamais il y a une chambre du roi. Je leur jurerai, s'il le faut, d'être libéral, comme Dupont, de l'heure, l'honnête homme du parti maintenant qu'ils ont enterré M. de Lafayette. Un autre chef de parti, aussi honnête que Dupoirier l'était peu, mais bien plus fou, car il s'agitait beaucoup sans le moindre espoir de gagner de l'argent, M. Gautier, le républicain, était resté fort étonné et encore plus effrayé du départ de Lucien. « Ne m'avoir rien dit, à moi qui l'aimais ? Ah, cœur parisien, politesse infinie et sentiment nul. Je le croyais un peu différent des autres. Je croyais voir qu'il y avait de la chaleur et de l'enthousiasme au fond de cette âme. Les mêmes sentiments, mais poussés à un bien autre degré d'énergie, agitaient le cœur de Madame de Chastelet. Ne m'avoir pas écrit, à moi qu'il jurait de tant aimer, à moi, hélas, dont il voyait bien la faiblesse. Cette idée était trop horrible. Madame de Chastelet finit par se persuader que la lettre de Lucien avait été interceptée. Est-ce que je reçois une réponse de Madame de Constantin? Se disait-elle. Et je lui ai écrit 6 fois au moins depuis que je suis malade. Le lecteur doit savoir que Madame Cunier, la directrice de la poste aux lettres de Nancy, pensait bien. À peine monsieur le marquis de Pontlevé vit-il sa fille malade et dans l'impossibilité de sortir, qu'il se transporta chez Madame Cunier, petite dévote de 3 pieds et demi de haut. Après les premiers compliments, « Vous êtes trop bonne chrétienne, madame, et trop bonne royaliste, » dit-il avec onction, pour ne pas avoir une idée juste de ce que doit être l'autorité du roi. Ideste Charles X. Et des commissaires établis par lui durant son absence. Les élections vont avoir lieu. C'est un événement décisif. La prudence oblige, de vrai, à certains ménagements. Mais là est le droit, madame. Prague avant tout. Et n'en doutez pas. On tient un registre fidèle de tous les services. Et, madame la directrice, il entre dans mon pénible devoir de le dire. Tout ce qui ne nous aide pas dans ces temps difficiles est contre nous. Etc., etc. À la suite d'un dialogue entre ces deux graves personnages, d'une longueur et d'une prudence infinie, et d'un ennui encore plus grand pour le lecteur s'il lui était présenté. Car aujourd'hui, après 40 ans de comédie, qui ne se figure ce que peut donner l'entretien d'un vieux marquis égoïste et d'une dévote de profession? Après qu'une hypocrisie habituelle et savante eût développé les pensées d'un père qui veut hériter de sa fille, et qu'une fausseté plus plate et moins déguisée eût emmiellé les réponses de Madame Cunier, dame de charité, dévote de profession, timide encore plus, et qui songe avant tout à ne pas perdre une bonne place de 1100 francs dans le cas où Charles X ou Henri V remonterait sur le trône de ses pères. Après avoir parlé, pour débuter, de franchise, de cordialité, de vertu pendant 7 quarts d'heure, on en vint à la conclusion des articles suivants. Premièrement, aucune lettre du sous-préfet, du maire, du lieutenant de gendarmerie, etc., ne sera jamais livrée à monsieur le marquis. Madame Cunier lui montrera seulement, sans s'en dessaisir, les lettres écrites par monsieur le grand vicaire Ré, par monsieur l'abbé Olive, etc. Toute la conversation de monsieur de Pontlevé avait porté sur ce premier article. En cédant, il obtint un triomphe complet sur le second. Deuxièmement, toutes les lettres adressées à madame de Chastelet seront remises à monsieur le marquis, qui se charge de les donner à madame sa fille, qui est retenue au lit par la maladie. Troisièmement, toutes les lettres écrites par madame de Chastelet seront montrées à monsieur le marquis. Il fut facilement convenu que le marquis pourrait s'en saisir pour les faire parvenir par une voie plus économique que la poste. Mais dans ce cas, qui entraînait une perte de deniers pour le gouvernement, madame Cunier, sa représentante dans la présente affaire, pouvait naturellement s'attendre à un cadeau d'un panier de bon vin du Rhin de seconde qualité. Dès le surlendemain de cette conversation, madame Cunier remit un paquet, fermé par elle, au vieux Saint-Jean, valet de chambre du marquis. Ce paquet contenait une toute petite lettre de madame de Chastelet à madame de Constantin. Le ton en était doux et tendre. Madame de Chastelet aurait voulu demander des conseils à son amie, mais n'osait s'expliquer. « Bavardage insignifiant, se dit le marquis en la serrant dans son bureau. Et un quart d'heure après, on vit passer le vieux valet de chambre portant à Madame Cugnet un panier de 16 bouteilles de vin du Rhin. Le caractère de Madame de Chastelet était la douceur et la nonchalance. Rien ne parvenait à agiter cette âme douce, noble, amante de ses pensées et de la solitude. Mais placée par le malheur hors de son état habituel, les décisions ne lui coûtaient rien. Elle envoya son valet de chambre jeter à la poste, au bourg de Darnay, une lettre adressée à Madame de Constantin. Une heure après le départ du valet de chambre, quelle ne fut pas la joie de Madame de Chastelet en voyant Madame de Constantin entrer dans sa chambre. Ce moment fut bien doux pour les deux amis. « Quoi, ma chère Bathilde ? » dit enfin Madame de Constantin, quand on put parler après les premiers transports. « 6 semaines sans un mot de toi, et c'est par hasard que j'apprends d'un des agents que monsieur le préfet emploie pour les élections que tu es malade et que ton état donne des inquiétudes. » « Je t'ai écrit 8 lettres au moins. » « Ma chère, ceci est trop fort. Il est un point où la bonté devient duperie. » « Il croit bien faire. » Ceci voulait dire « Mon père croit bien faire. » Car l'indulgence de Madame de Chastelet n'allait pas jusqu'à ne pas voir ce qui se passait autour d'elle. Mais le dégoût inspiré par les petites manœuvres dont elle suivait le développement n'avait ordinairement d'autre effet que de redoubler son amour pour l'isolement. Ce qui lui convenait de la société, c'était les plaisirs des beaux-arts, le spectacle, une promenade brillante, un bal très nombreux. Quand elle voyait un salon avec 6 personnes, elle frémissait. Elle était sûre que quelque chose de bas allait la blesser. L'expérience désagréable lui faisait redouter tout dialogue entre elle et une seule personne. C'était un caractère tout opposé qui faisait compter pour beaucoup dans la société Madame de Constantin. Une humeur vive et entreprenante, s'attaquant aux difficultés et aimant à se moquer de tous les ridicules ennemis, faisait considérer Madame de Constantin comme l'une des femmes du département qu'il était le plus dangereux d'offenser. Son mari, très bel homme et assez riche, s'occupait avec passion de tout ce qu'elle lui indiquait. Depuis 1 an, par exemple, il ne songeait qu'à un moulin à vent, en pierre, qu'il faisait construire sur une vieille tour voisine de son château et qui devait lui rapporter 40%. Depuis 3 mois, il négligeait le moulin et ne songeait qu'à la Chambre des députés. Comme il n'avait point d'esprit, n'avait jamais offensé personne et passait pour s'acquitter avec complaisance et exactitude des petites commissions qu'on lui donnait, il avait des chances. Nous croyons être assurés de l'élection de monsieur de Constantin. Le préfet le porte en seconde ligne par la peur qu'il a du marquis de Croisant, notre rival, ma chère. Madame de Constantin dit ce mot en riant. Le candidat ministériel sera perdu. C'est un friponneau assez méprisé. Et la veille de l'élection fera courir 3 lettres de lui qui prouvent clairement qu'il s'adonne un peu au noble métier d'espion. Cela explique sa croix du 1er de mai dernier, qui a outré d'envie jalouse tout l'arrondissement de Beuvron. Je te dirai, en grand secret, ma chère Bathilde, que nos malles sont faites. Quel ridicule si nous ne l'emportons pas, ajouta-t-elle en riant. Mais aussi, si nous réussissons, le lendemain du grand jour, nous partons pour Paris, où nous passons au moins 6 grands mois. Et tu viens avec nous. » Ce mot fit rougir Madame de Chastelet. « Eh bon Dieu, ma chère !» dit Madame de Constantin en s'interrompant. « Que se passe-t-il donc ?» Madame de Chastelet était pourpre. Elle aurait été heureuse en ce moment que Madame de Constantin eût reçu la lettre que le valet de chambre portait à Darnay. Là se trouvait le mot fatal. Une femme que tu aimes a donné son cœur. » Madame de Chastelet dit enfin avec une honte infinie. « Hélas, mon ami, il y a un homme qui doit croire que je l'aime. »
Et, ajouta-t-elle en baissant tout à fait la tête,
« il ne se trompe guère. »«
Que tu es folle !» s'écria madame de Constantin en riant.
« Réellement, si je te laisse encore un an ou deux à Nancy, tu vas prendre toutes les manières de sentir d'une religieuse. Et où est le mal, grand Dieu, qu'une jeune veuve de 24 ans, qui n'a pour unique soutien qu'un père de 70 ans, qui, par excès de tendresse, intercepte toutes ses lettres, songe à choisir un mari, un appui, un soutien. Hélas, ce ne sont pas toutes ces bonnes raisons. Je mentirais si j'acceptais tes louanges. Il se trouve par hasard qu'il est riche et bien né, mais il aurait été pauvre et fils d'un fermier qu'il en eût été tout de même. »
Madame de Constantin exigea une histoire suivie. Rien ne l'intéressait comme les histoires d'amour sincères, et elle avait une amitié passionnée pour madame de Chastelet.
Il commença par tomber 2 fois de cheval sous mes fenêtres.
Madame de Constantin fut saisie d'un rire fou. Madame de Chastelet fut très scandalisée. Enfin, les yeux remplis de larmes, madame de Constantin put dire, en s'interrompant 20 fois,
« Ainsi, ma chère Bathilde, tu ne peux pas appliquer à ce puissant vainqueur le mot obligé de la province. C'est un beau cavalier !»
L'injustice faite à Lucien ne fit que redoubler l'intérêt avec lequel madame de Chastelet raconta à son ami tout ce qui s'était passé depuis 6 mois.
Mais toute la partie tendre ne toucha guère madame de Constantin. Elle ne croyait pas aux grandes passions.
Cependant, sur la fin du récit, qui fut infini, elle devint pensive. Le récit terminé, elle se taisait.
« Ton monsieur Leven, dit-elle enfin à son ami, est-il un don Juan terrible pour nous autres pauvres femmes, ou est-ce un enfant sans expérience? Sa conduite n'a rien de naturel. »
Dis qu'elle n'a rien de commun, rien de convenu d'avance, reprit madame de Chastelet avec une vivacité bien rare chez elle. Et elle ajouta avec une sorte d'enthousiasme,
« C'est pour cela qu'il m'est cher. Ce n'est point un nigaud qui a lu des romans. »
Le discours des 2 amis fut infini sur ce point. Madame de Constantin garda ses méfiances. Elles furent même augmentées par le profond intérêt qu'à son grand chagrin, elle découvrait chez son ami. Madame de Constantin avait espéré d'abord un petit amour bien convenable, pouvant conduire à un mariage avantageux, si toutes les convenances se rencontraient. Sinon, un voyage en Italie ou les distractions d'un hiver à Paris effaçaient le reste de ravages produits par 3 mois de visites journalières. Au lieu de cela, cette femme douce, timide, indolente, et que rien ne pouvait émouvoir, elle la trouvait absolument folle et prête à prendre tous les partis.
« Mon cœur me dit, disait de temps en temps madame de Chastelet, qu'il m'a lâchement abandonnée.
Quoi, ne pas m'écrire?
Mais de toutes les lettres que je t'ai écrites, pas une seule n'est arrivée,
disait avec feu madame de Constantin, car elle avait une qualité bien rare en ce siècle. Elle n'était jamais de mauvaise foi avec son ami, même pour son bien. À ses yeux, mentir eût tué l'amitié.
Comment n'a-t-il pas dit à un postillon, reprenait madame de Chastelet avec un feu bien singulier, comment n'a-t-il pas dit à un postillon à 10 lieues d'ici, mon ami, voilà 100 francs, allez vous-même remettre cette lettre à madame de Chastelet, à Nancy, rue de la Pompe. « Donnez la lettre à elle-même et non à une autre. »«
Il aura écrit en partant, écrit de nouveau en arrivant à Paris. »«
Et voilà 9 jours qu'il est parti. Jamais je ne lui ai avoué tout à fait mes soupçons sur le sort de mes lettres. Mais il sait ce que je pense sur toute chose. Mon cœur me le dit. Il sait que mes lettres sont ouvertes. »
Chapitre 41. Les soupçons de madame de Chastelet
lui fournirent une objection décisive à la proposition de suivre Madame de Constantin à Paris si son mari était nommé député.
« N'aurais-je pas l'air, lui dit-elle, de courir après Monsieur Leven ?»
Pendant les 15 jours qui suivirent, cette objection occupa seule les moments les plus intimes de la conversation des deux amis. 3 jours après l'arrivée de Madame de Constantin, Mademoiselle Bérard fut payée magnifiquement et renvoyée. Madame de Constantin, avec son activité ordinaire, interrogea la bonne Mademoiselle Beaulieu et renvoya Anne-Marie. Monsieur le marquis de Pontlevé, extrêmement attentif à ces petits événements domestiques, comprit qu'il avait une rivale invincible dans l'ami de sa fille. C'était un peu l'espoir de Madame de Constantin. Son activité continue rendit la santé à Madame de Chastelet. Elle voulut être menée dans le monde, et sous ce prétexte, elle força son amie à paraître presque chaque soir chez mesdames de Puylaurent, d'Aucuincourt, de Marcilly, de Serpierre, de Commercy, etc. Madame de Constantin voulait bien établir que Madame de Chastelet n'était pas au désespoir du départ de Monsieur Leven. « Sans s'en douter, se disait-elle, cette pauvre Bathilde aura commis quelque imprudence. Et si nous ne détruisons pas ce mauvais bruit ici, il peut nous poursuivre jusqu'à Paris. Ses yeux sont si beaux qu'ils en sont parlants malgré elle. Et sotto l'usbergo del sentir si pura. Ils auront regardé ce jeune officier avec un de ces regards qu'aucune explication au monde ne peut justifier. En voiture, un soir, en allant chez Madame de Puylaurent, « Quel est l'homme le plus actif, le plus impertinent, le plus influent de toute votre jeunesse ?» dit Madame de Constantin. « C'est Monsieur de Sanréal, sans doute, » répondit Madame de Chastelet en souriant. « Eh bien, je vais attaquer ce grand cœur dans ton intérêt. Dans le mien, dis-moi, dispose-t-il de quelque voix ?»« Il a des notaires, un agent, des fermiers. » Cet homme est aimable parce qu'il a 40 000 livres de rente au moins. Et qu'en fait-il? Il s'enivre soir et matin, et il a des chevaux. C'est-à-dire qu'il s'ennuie. Je vais le séduire. Est-ce que jamais une femme un peu bien a voulu le séduire? J'en doute. Il faudrait d'abord trouver le secret de ne pas mourir d'ennui en l'écoutant. Les jours de mélancolie profonde, où Madame de Chastelet éprouvait une répugnance invincible à sortir, Madame de Constantin s'écriait. « Il faut que j'aille chasser aux voix pour mon mari. Dans le vaste champ de l'intrigue, il ne faut rien négliger. 4 voix, 3 voix nous venant de l'arrondissement de Nancy, peuvent tout décider. Songe que je meurs d'envie d'entendre Rubini. » et que du vivant d'un beau-père avare, je n'ai qu'un moyen au monde de retourner à Paris, la députation. » En peu de jours, Madame de Constantin devina, sous une écorce grossière, l'esprit supérieur du docteur Dupoirier, et se lia tout à fait avec lui. Cet ours n'avait jamais vu une jolie femme non malade lui adresser la parole 2 fois de suite. En province, les médecins n'ont pas encore succédé au confesseur. « Vous serez notre collègue, cher docteur, » lui disait-elle. « Nous voterons ensemble, nous ferons et déferons les ministres. Mes dîners vaudront bien les leurs, et vous me donnerez votre voix, n'est-ce pas ? 12 voix toujours bien unies se feraient compter. Mais j'oubliais, vous êtes légitimiste furibond, et nous... anti-républicain modéré. » Au bout de 2 jours, Madame de Constantin fit une découverte bien utile. Madame d'Aucuincourt était au désespoir du départ de Leven. Le silence farouche de cette femme si gaie, si parlante, qui autrefois était l'âme de la société, sauvait Madame de Chastelet. Personne presque ne songeait à dire qu'elle aussi avait perdu son attentif. Madame d'Aucuincourt n'ouvrait la bouche que pour parler de Paris
et de ses projets de voyage aussitôt après les élections. Un jour, Madame de Serpierre dit méchamment à Madame d'Aucuncourt qui parlait de Paris « Vous y retrouverez Monsieur Dantin ?» Madame d'Aucuncourt la regarda avec un étonnement profond qui fut bien amusant pour Madame de Constantin. Madame d'Aucuncourt avait oublié l'existence de Monsieur Dantin. Madame de Constantin ne trouva de propos réellement dangereux pour son amie que dans le salon de Madame de Serpierre. « Mais, disait Madame de Constantin à son amie, comment peut-on avoir la prétention de marier une fille aussi cruellement, aussi ridiculement laide, à un jeune homme riche de Paris, et sans que ce jeune homme ait jamais dit un seul mot encourageant? Cela est fou réellement. Il faudrait des millions pour qu'un Parisien osât entrer dans un salon avec une telle figure. » «
Monsieur Leven n'est pas ainsi. Tu ne le connais pas. S'il l'aimait, le blâme de la société serait méprisé par lui, ou plutôt il ne le verrait pas. »
Et elle expliqua pendant 5 minutes le caractère de Lucien. Ces explications avaient le pouvoir de rendre Madame de Constantin très pensive. Mais à peine Madame de Constantin eut-elle vu 5 ou 6 fois la bonne Théo de l'Inde qu'elle fut touchée de la tendre amitié qu'elle avait prise pour Leven. Ce n'était pas de l'amour, la pauvre fille n'osait pas. Elle connaissait et s'exagérait peut-être tous les désavantages de sa taille et de sa figure. C'était sa mère qui avait des prétentions, fondées sur ce que sa haute noblesse lorraine honorait trop un petit roturier. « Mais que fait-on à Paris de ce lustre-là ? » lui disait un jour Théo de l'Inde. Le vieux monsieur de Serpierre plut aussi beaucoup à Madame de Constantin. Il avait un cœur admirable de bonté et passait son temps à soutenir des doctrines atroces. « Ceci me rappelle, disait Madame de Constantin à son ami, ce qu'on nous faisait tant admirer au Sacré-Cœur. Le bon duc N, faisant atteler son carrosse à 7 heures du matin, au mois de février, pour aller solliciter le point coupé. On discutait alors la loi du sacrilège à la Chambre des Pairs, et il s'agissait d'établir la pénalité pour les voleurs de vases sacrés dans les églises. Madame de Constantin, avec sa jolie figure un peu commune, mais si appétissante à regarder, avec son activité, sa politesse parfaite, son adresse insinuante, eut bientôt fait la paix de son ami avec la maison Serpierre. Madame de Serpierre dit bien d'un air mutin la dernière fois qu'on traita cette question délicate. « Je garde ma pensée. »« À la bonne heure, ma chère amie, » dit le bon lieutenant du roi à Colmar. « Mais ne parlons plus de cela, autrement les méchants diront que nous allons à la chasse au mari. » Il y avait bien 6 ans que le bon monsieur de Serpierre n'avait trouvé un mot si dur. Celui-ci fit époque dans sa famille, et la réputation de Leven, jusque-là séducteur de mauvaise foi de Mademoiselle Théo de l'Inde, fut restaurée. Tous les jours, pour fuir le malheur d'être rencontré par des électeurs auxquels il eût fallu faire bon accueil, les 2 amis faisaient de grandes promenades au Chasseur Vert. Madame de Chastelet aimait à revoir ce charmant café House. Ce fut là que l'ultimatum sur le voyage de Paris fut arrêté. « Ta conscience elle-même, si timorée, ne pourra t'appliquer ce mot si humiliant et si vulgaire, courir après un amant, si tu te jures à toi-même de ne jamais lui parler. » « Eh bien, soit, » dit Madame de Chastelet, saisissant cette idée. « À ces conditions, je consens, et mes scrupules s'évanouissent. Si je le rencontrais au bois de Boulogne, s'il s'approchait de moi et m'adressait la parole, je ne lui répondrais pas un seul mot avant d'avoir revu le Chasseur Vert. » Madame de Constantin la regardait étonnée. « Si je voulais lui parler, » continua Madame de Chastelet, « je partirai pour Nancy, et ce n'est qu'après avoir touché barre ici que je me permettrai de lui répondre. » Il y eut un silence.
Ceci est un vœu, reprit madame de Chastelet avec un sérieux qui fit sourire madame de Constantin, et puis la jeta dans une humeur sombre. Le lendemain, en allant au chasseur vert, madame de Constantin remarqua un cadre dans la voiture. C'était une belle Sainte Cécile, gravée par Perfetti, offerte jadis à madame de Chastelet par Leven. Madame de Chastelet pria le maître du café de placer cette gravure au-dessus de son comptoir. « Je vous la redemanderai peut-être un jour. »«
Et jamais, »
dit-elle tout bas en s'éloignant avec madame de Constantin, « je n'aurai la faiblesse d'adresser même un seul mot à monsieur Leven tant que cette gravure sera ici. C'est ici qu'a commencé cette préoccupation fatale. »
Halte-là sur ce mot fatal. Grâce au ciel, l'amour n'est point un devoir, c'est un plaisir. Ne le prenons donc point au tragique. Quand ton âge réuni au mien fera 50 ans, alors nous serons tristes, raisonnables, lugubres, tant qu'il te plaira. Nous ferons ce beau raisonnement de mon beau-père. Il pleut? Tant pis. Il fait beau? Tant pis encore.
Tu t'ennuyais à périr, jouant la colère contre Paris sans être en colère. Arrive un beau jeune homme.
Mais il n'est pas très bien.
Arrive un jeune homme, sans épithète. Tu l'aimes, tu es occupé, l'ennui s'envole bien loin. Et tu appelles cet amour-là fatal.
Le départ arrêté, il y eut de grandes scènes à ce sujet avec M. Pontlevé. Heureusement, madame de Constantin soutint la plus grande part du dialogue, et le marquis avait une peur mortelle de sa gaieté quelquefois ironique.
« Cette femme-là dit tout. Il n'est pas difficile d'être aimable quand on ne se refuse rien, »
répétait-il un soir, fort piqué, à madame de Puylaurent.
« Il n'est pas difficile d'avoir de l'esprit quand on se permet tout. »«
Eh bien, mon cher marquis, » engagez madame de Serpierre, que voilà là-bas, à ne se rien refuser, et nous allons voir si nous serons amusés. »
Des propos toujours ironiques, répliqua le marquis avec humeur. Rien n'est sacré aux yeux de cette femme-là.
Jamais personne au monde n'eut l'esprit de madame de Constantin, dit monsieur de San-Réal, prenant la parole d'un air imposant.
Et si elle se moque des prétentions ridicules, à qui la faute ?
Aux prétentions, dit madame de Puylaurent, curieuse de voir ces deux êtres se gourmer.
Oui, ajouta San-Réal d'un air pesant, aux prétentions, aux tyrannies.
Heureux d'avoir une idée, plus heureux d'être approuvé par madame de Puylaurent, ce qui ne lui était peut-être jamais arrivé, Monsieur de San-Réal tint la parole pendant un gros quart d'heure et retourna sa pauvre idée dans tous les sens.
« Il n'y a rien de plus plaisant, madame, dit tout bas madame de Constantin à madame de Puylaurent, qu'un homme sans esprit qui rencontre une idée. Cela est scandaleux. »
Et le rire fou de ces deux dames fut pris pour une marque d'approbation par San-Réal.
« Cet être aimable doit m'adorer. Madame de Constantin avait raison. »
Elle accepta deux ou trois dîners magnifiques qui réunirent toute la bonne compagnie de Nancy. Quand monsieur de San-Réal, faisant sa cour à madame de Constantin, ne trouvait rien absolument à dire, madame de Constantin lui demandait sa voix au collège électoral pour la 100e fois. Elle était sûre de quelques protestations bizarres. Il lui jurait qu'il lui était dévoué, lui, son homme d'affaires, son notaire et ses fermiers. « Et de plus, madame, j'irai vous voir à Paris. »«
À Paris, je ne vous recevrai qu'une fois par semaine, » disait-elle en regardant madame de Puylaurent.
« Ici, nous nous connaissons tous. Là, vous me compromettriez. » « Un jeune homme, votre fortune, vos chevaux, votre état dans le monde... » Une fois la semaine, je dis trop. Deux visites par mois tout au plus.
Jamais San-Réal ne s'était trouvé à pareille fête.
il eût volontiers pris acte, par devant notaire, des choses aimables que lui adressait madame de Constantin, une femme d'esprit. Il lui donnait ce titre au moins 20 fois par jour, et avec une voix de stentor, ce qui faisait beaucoup d'effet et faisait croire à ses paroles. À cause de ses beaux yeux, il eut une querelle avec monsieur de Pontlevé, auquel il déclara tout net qu'il prétendait aller au collège électoral, sauf à prêter serment à Louis-Philippe. Qui croit au serment en France aujourd'hui? Louis-Philippe même croit-il au sien? Des voleurs m'arrêtent au coin d'un bois, ils sont 3 contre 1, et me demandent un serment. Irais-je le refuser? Ici, le gouvernement est le voleur qui prétend me voler ce droit d'élire un député, qu'a tout Français. Le gouvernement a ses préfets, ses gendarmes, irais-je le combattre? Non, ma foi, je le paierai en monnaie de singe, comme lui-même paie les partisans des glorieuses journées. Dans quel pamphlet M. de Sanréal avait-il pris ces 3 phrases? Car personne ne le soupçonna jamais de les avoir inventées. Madame de Constantin, qui lui donnait des idées tous les soirs, se serait bien gardé de répandre des raisonnements qui eussent pu choquer le préfet du département. C'était le fameux monsieur Dumoral, renégat célèbre, autrefois, avant 1830, libéral déclamateur, mais allant fort bien en prison. Il parlait sans cesse de 8 mois de séjour à Sainte-Pélagie, fait sous Charles X. Le fait est qu'il était beaucoup moins bête, qu'il avait même acquis quelques finesses depuis son changement de religion. Et pour tout au monde, madame de Constantin n'eût pas hasardé un mot réellement imprudent. Monsieur Dumoral voulait une direction générale de 40 000 francs et Paris. Et pour y arriver, il était réduit à mâcher du mépris 2 ou 3 fois la semaine. Madame de Constantin savait qu'un homme qui est à ce régime est peu sensible aux grâces d'une jolie femme. Dans le moment actuel, M. Dumoral voulait se tirer d'une façon brillante des élections et passer à une autre préfecture. Les sarcasmes de l'Aurore, le journal libéral de M. Gautier, ses éternelles citations des opinions autrefois libérales de M. Dumoral l'avaient tout à fait démoralisé dans le département. C'est le mot du pays. Nous supprimons ici 8 ou 10 pages sur les faits et gestes de M. Dumoral préparant les élections. Cela est vrai, mais vrai comme la morgue, et c'est un genre de vérité que nous laissons au roman 1.12 pour femme de chambre. Retournons à Paris, chez le ministre de M. Dumoral. À Paris, les manœuvres des gens du pouvoir sont moins dégoûtantes. Chapitre 42. Le soir du jour où le nom de Leven avait paru si glorieux dans le Moniteur, ce maître des requêtes, outré de fatigue et de dégoût, était assis chez sa mère, dans un petit coin sombre du salon, comme le misanthrope. Accablé des compliments auxquels il avait été en butte toute la journée, les mots de carrière superbe, de bel avenir, de premiers pas brillants, papillonnait devant ses yeux et lui faisait mal à la tête. Il était horriblement fatigué des réponses, la plupart de mauvaise grâce et mal tournées, qu'il avait faites à tant de compliments, tous fort bien faits et encore mieux dits. C'est le talent de l'habitant de Paris. « Maman, voilà donc le bonheur ? » dit-il à sa mère quand ils furent seuls. « Mon fils !» Il n'y a point de bonheur avec l'extrême fatigue, à moins que l'esprit ne soit amusé ou que l'imagination ne se charge de peindre vivement le bonheur à venir. Des compliments trop répétés sont fort ennuyeux, et vous n'êtes ni assez enfant, ni assez vieux, ni assez ambitieux, ni assez vaniteux pour rester ébahi devant un uniforme de maître des requêtes. M. Leven père ne parut qu'une bonne heure après la fin de l'opéra. « Demain, à 8 heures, dit-il à son fils, je vous présente à votre ministre, si vous n'avez rien de mieux à faire. » Le lendemain, à 8h05, Lucien était dans la petite antichambre de l'appartement de son père.
8 heures sonnèrent, 8 heures un quart.
Pour rien au monde, monsieur, dit à Leven Anselme, l'ancien valet de chambre. Je n'entrerai chez monsieur avant qu'il ne sonne.
Enfin la sonnette se fit entendre à 10h30.
Je suis fâché de t'avoir fait attendre, mon ami, dit monsieur Leven avec bonté.
Moi, peu importe, mais le ministre.
Le ministre est fait pour m'attendre quand il le faut. Il a, ma foi, plus affaire de moi que moi de lui. Il a besoin de ma banque et peur de mon salon. Mais te donner 2 heures d'ennui à toi, mon fils, un homme que j'aime et que j'estime, ajouta-t-il en riant, c'est fort différent. J'ai bien entendu sonner 8 heures, mais je me sentais un peu de transpiration. J'ai voulu attendre qu'elle fût bien passée. À 65 ans, la vie est un problème, et il ne faut pas l'embrouiller par des difficultés imaginaires.
Mais comme te voilà fait, dit-il en s'interrompant. Tu as l'air bien jeune. Va prendre un habit moins frais, un gilet noir, arrange mal tes cheveux, tous quelquefois. Tâche de te donner 28 ou 30 ans. La première impression fait beaucoup avec les imbéciles, et il faut toujours traiter un ministre comme un imbécile. Il n'a pas le temps de penser. Rappelle-toi de n'être jamais très bien vêtu tant que tu seras dans les affaires.
On partit après une grande heure de toilette. Le comte de Vez n'était point sorti. L'huissier accueillit avec empressement le nom de messieurs Leven et les annonça sans délai.
Son Excellence nous attendait, dit monsieur Leven à son fils, en traversant 3 salons où les solliciteurs étaient étagés suivant leur mérite et leur rang dans le monde.
Messieurs Leven trouvèrent son Excellence fort occupé à mettre en ordre, sur un bureau de citronnier chargé de ciselures de mauvais goût, 300 ou 400 lettres.
« Vous me trouvez occupé de ma circulaire, mon cher Leven. Il faut que je fasse une circulaire qui sera déchiquetée par le National, par la Gazette, etc. Et messieurs mes commis me font attendre depuis 2 heures la collection des circulaires de mes prédécesseurs. Je suis curieux de savoir comment ils ont passé le pas. Je suis fâché de ne pas l'avoir faite. Un homme d'esprit comme vous m'avertirait des phrases qui peuvent donner prise. »
Son Excellence continua ainsi pendant 20 minutes. Pendant ce temps, Lucien l'examinait. Monsieur Devez annonçait 50aine d'années. Il était grand et assez bien fait. De beaux cheveux grisonnants, des traits fort réguliers, une tête portée haute prévenait en sa faveur. Mais cette impression ne durait pas. Au second regard, on remarquait un front bas, couvert de rides, excluant toute idée de pensée. Lucien fut tout étonné et fâché de trouver à ce grand administrateur l'air plus que commun, l'air valet de chambre. Il avait de grands bras dont il ne savait que faire. Et ce qui est pis, Lucien crut entrevoir que son Excellence cherchait à se donner des grâces imposantes. Il parlait trop haut et s'écoutait parler. Monsieur Leven père, presque en interrompant l'éloquence du ministre, trouva le moment de dire les paroles sacramentelles. « J'ai l'honneur de présenter mon fils à votre Excellence. »
« J'en veux faire un ami. Il sera mon premier aide de camp. Nous aurons bien de la besogne. Il faut que je me fourre dans la tête le caractère de mes 86 préfets. Stimuler les flegmatiques, retenir le zèle imprudent qui donne la colère pour auxiliaire aux intérêts du parti contraire. Éclairer les esprits plus courts. Ce pauvre N, le prédécesseur, a tout laissé dans un désordre complet. Les commis qu'il a fourrés ici, au lieu de me répondre par des faits et des notions exactes, me font des phrases. Vous me voyez ici, devant le bureau de ce pauvre Corbière. Qui m'eût dit, quand je combattais à la Chambre des Paris sa petite voix de chat qu'on écorche, que je m'assoirais dans son fauteuil un jour? C'était une tête étroite. Sa vue était courte, mais il ne manquait pas de sens dans les choses qu'il apercevait. Il avait de la sagacité, mais c'était bien l'antipode de l'éloquence. Outre que sa mine de chat fâché donnait au plus indifférent l'envie de le contredire. Monsieur de Villèle eût mieux fait de s'adjoindre un homme éloquent. Martignac, par exemple. Ici, dissertation sur le système de Monsieur de Villèle. Ensuite, Monsieur de Vèze prouva que la justice est le premier besoin des sociétés. De là, il passa à expliquer comment la bonne foi est la base du crédit. Il dit ensuite à ces messieurs qu'un gouvernement partial et injuste se suicide de ses propres mains. La présence de Monsieur Levenpère avait semblé lui imposer d'abord. Mais bientôt, enivré de ses paroles, il oublia qu'il parlait devant un homme dont Paris répétait les épigrammes. Il prit des airs importants et finit par faire l'éloge de la probité de son prédécesseur, qui passait généralement pour avoir économisé 800 000 francs pendant son ministère d'une année.
« Ceci est trop magnanime pour moi, mon cher comte, » lui dit M. Levenne, et il s'évada.
Mais le ministre était en train de parler. Il prouva à son secrétaire intime que sans probité, l'on ne peut pas être un grand ministre. Pendant que Lucien était l'unique objet de l'éloquence du ministre, il lui trouva l'air commun. Enfin, son Excellence installa Lucien à un magnifique bureau, à 20 pas de son cabinet particulier. Lucien fut surpris par la vue d'un jardin charmant sur lequel donnaient ses croisées. C'était un contraste piquant avec la sécheresse de toutes les sensations dont il était assailli. Lucien se mit à considérer les arbres avec attendrissement. En s'asseyant, il remarqua de la poudre sur le dossier de son fauteuil. « Mon prédécesseur n'avait pas de ces idées-là, » se dit-il en riant. Bientôt, en ayant l'écriture sage, très grosse et très bien formée de ce prédécesseur, il eut le sentiment de la vieillerie au suprême degré. « Il me semble que ce cabinet sent l'éloquence vide et l'emphase plate. » Il décrocha 2 ou 3 gravures de l'école française. Ulysse arrêtant le char de Pénélope par messieurs Fragonard et le barbier et les envoya dans les bureaux. Plus tard, il les remplaça par des gravures d'Anderioni et de Morgan. Le ministre revint 1 heure après et lui remit une liste de 25 personnes qu'il fallait inviter pour le lendemain. « J'ai décidé qu'au moment où l'horloge du ministère sonne l'heure, le portier vous apportera toutes les lettres arrivées à mon adresse. Vous me donnerez sans délai ce qui viendra des Tuileries ou des ministères, vous ouvrirez tout le reste et m'en ferez un extrait en 1 ligne, ou 2 tout au plus. Mon temps est précieux. » À peine le ministre sortit, 8 ou 10 commis vinrent faire connaissance avec Monsieur le maître des requêtes, dont l'air déterminé et froid leur parut de bien mauvais augure. Pendant toute cette journée, remplie presque exclusivement d'un cérémonial faux à couper au couteau, Lucien fut plus froid encore et plus ironique qu'au régiment. Il lui semblait être séparé par 10 années d'une expérience impitoyable de ce moment de premier début à Nancy, où il était froid pour éviter une plaisanterie qui aurait pu conduire à un coup d'épée. Souvent, alors, il avait toutes les peines du monde à réprimer une bouffée de gaieté. Au risque de toutes les plaisanteries grossières et de tous les coups d'épée du monde, il aurait voulu jouer au bar avec ses camarades du 27e. Aujourd'hui, il n'avait besoin que de ne pas trop déguiser le profond dégoût que lui inspiraient tous les hommes. Sa froideur d'alors lui semblait la bouderie joyeuse d'un enfant de 15 ans. Maintenant, il avait le sentiment de s'enfoncer dans la boue. En rendant le salut à tous les commis qui venaient le voir, il se disait « J'ai été dupe à Nancy, parce que je n'étais pas assez méfiant. J'avais la naïveté et la duperie d'un cœur honnête. Je n'étais pas assez coquin. Oh, que la question de mon père avait un grand sens. « Es-tu assez coquin ? Il faut courir à la trappe, ou me faire aussi adroit que tous ces chefs et sous-chefs qui viennent donner la bienvenue à monsieur le maître des requêtes. Sans doute, les premiers vols à favoriser sur quelques fournitures de foin pour les chevaux ou de linge pour les hôpitaux me répugneront. Mais à la trappe, menant une vie innocente et dont tout le crime est de mystifier quelques paysans des environs ou quelques novices, ma vanité blessée me laisserait-elle un moment de repos? Comment digérer cette idée d'être inférieure par l'esprit à tous ses contemporains? Apprenons donc, sinon à voler, du moins à laisser passer le vol de son excellence, comme tous ces commis dont je fais la connaissance aujourd'hui. » La physionomie que donnent de pareilles idées n'est pas précisément celle qu'il faut pour faire naître un dialogue facile et de bon goût entre gens qui se voient pour la première fois. Après cette première journée de ministère, la misanthropie de Lucien était de cette forme. Il ne songeait pas aux hommes quand il ne les voyait pas, mais leur présence un peu prolongée lui était importune et bientôt insupportable. Pour l'achever de peindre, il trouva, en rentrant à la maison, son père d'une gaieté parfaite. « Voici deux petites assignations, lui dit-il, qui sont les suites naturelles de vos dignités du matin. » C'étaient deux cartes d'abonnement à l'opéra et au bouffe. « Ah, mon père, ces plaisirs me font peur. Vous m'avez accordé 18 mois au lieu d'un an pour une certaine position dans le monde. Pour rendre la grâce complète, promettez-moi de passer une demi-heure chaque soir dans ces temples du plaisir, particulièrement vers la fin des plaisirs, à 11 heures. Je le promets. Ainsi je n'aurai pas une pauvre petite heure de tranquillité dans toute la journée. Et le dimanche, donc ? Le second jour, le ministre dit à Lucien « Je vous charge d'accorder des rendez-vous à cette foule de figures qui affluent chez un ministre nouvellement nommé. Éloignez l'intrigant de Paris, faufiler avec des femmes de moyenne vertu. Ces gens-là sont capables de tout, même de ce qu'il y a de plus noir. Faites accueil au pauvre diable de provincial entêté de quelque idée folle. Le solliciteur, portant avec une élégance parfaite un habit râpé, est un fripon. Il habite Paris. S'il valait quelque chose, je le rencontrerais dans quelque salon. Il trouverait quelqu'un pour me le présenter et répondre de lui. » Peu de jours après, Lucien invita à dîner un peintre de beaucoup d'esprit, Lacroix, qui portait le nom d'un préfet destitué par monsieur de Polignac. Et justement, ce jour-là, le ministre n'avait que des préfets. Le soir, quand le comte de Vèze se trouva seul dans son salon avec sa femme et Leven, il rit beaucoup de la mine attentive des préfets, dînant, qui, voyant dans le peintre un candidat à préfecture destiné à les remplacer, l'observait d'un œil jaloux. « Et pour fortifier le quiproquo, disait le ministre, j'ai adressé 10 fois la parole à la croix, et toujours sur de graves sujets d'administration. » C'est donc pour cela qu'il avait l'air si ennuyé et si ennuyeux, dit la petite comtesse de Vèze de sa voix douce et timide. C'était à ne pas le reconnaître. Je voyais sa petite figure spirituelle par-dessus un des bouquets du plateau. Je ne pouvais deviner ce qui lui arrivait. Il maudira votre dîner. On ne maudit point un dîner chez un ministre, dit le comte de Vèze à demi-sérieux. Voilà la griffe du lion, pensa Leven. Madame de Vèze, fort sensible à ses coups de boutoir, avait pris un air morne. Ce petit Leven va me faire jouer un sot rôle chez son père. Il veut avoir des tableaux, reprit-il d'un air gai. Et parbleu, à votre recommandation, je lui en donnerai. Je remarque que de façon ou d'autre, il vient ici 2 fois la semaine. Dites-vous vrai? Me promettez-vous des tableaux pour lui, et cela sans qu'il soit besoin de vous solliciter? ma parole.
En ce cas, j'en fais un ami de la maison.
Ainsi, madame, vous aurez deux hommes d'esprit, messieurs Lacroix et Levenne.
Le ministre partit de ce propos gracieux pour plaisanter Lucien un peu trop rudement sur la méprise qu'il avait fait inviter monsieur Lacroix, le peintre d'histoire. Lucien, réveillé, répondit à son excellence sur le ton de la parfaite égalité, ce qui choqua beaucoup le ministre. Lucien le vit et continua à parler avec une aisance qui l'étonna et l'amusa. Il aimait à se trouver avec madame de Vèze, jolie, très timide, bonne, et qui, en lui parlant, oubliait parfaitement qu'elle était une jeune femme et lui un jeune homme. Cet arrangement convenait beaucoup à notre héros.
Ainsi me voilà, se disait-il, sur le ton de l'intimité avec deux êtres dont je ne connaissais pas la figure il y a 8 jours, et dont l'un m'amuse surtout quand il m'attaque, et l'autre m'intéresse.
Il mit beaucoup d'attention à sa besogne. Il lui sembla que le ministre voulait prendre avantage de l'erreur de nom dans l'invitation à dîner pour lui attribuer l'aimable légèreté de la première jeunesse.
« Vous êtes un grand administrateur, monsieur le comte. En ce sens, je vous respecte. Mais l'épigramme à la main, je suis votre homme. Et vu vos honneurs, j'aime mieux risquer d'être un peu trop ferme que vous laisser empiéter sur ma dignité. Cela vous indiquera d'ailleurs que je me moque parfaitement de ma place, tandis que vous adorez la vôtre. »